When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at cenovus.com.
Anthony des Contes Cruels. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Alexandre H. Conte cruel par Auguste de Villiers de l'Isle-Adam. Anthony. Nous allions souvent chez la Duthé. Nous y faisions de la morale, et quelquefois pire. Le prince de ligne. Anthony se versa de l'eau glacée et mit son bouquet de violettes de Parme dans son verre. « Adieu les flacons de vin d'Espagne, » dit-elle. Et, se penchant vers un candélabre, elle alluma, souriante, un papelito roulé sur une pincée de ferresli. Le mouvement fit étinceler ses cheveux, noirs comme du charbon de terre. Nous avions bu du jerez toute la nuit. Par la croisée, ouverte sur les jardins de la villa, nous entendions le bruissement des feuillages. Nos moustaches étaient parfumées de santal, et aussi de ce qu'Anthony nous laissait cueillir, les roses rouges de ses lèvres, avec un charme tour à tour si sincère qu'il ne suscitait aucune jalousie. Rieuse, elle se regardait ensuite dans les miroirs de la salle. Lorsqu'elle se tournait vers nous avec des airs de Cléopâtre, c'était pour se voir encore dans nos yeux. Sur son jeune sein sonnait un médaillon d'or mat, aux initiales de pierrerie, les siennes, attaché par un velours noir. Un signe de deuil, tu ne l'aimes plus. Et, comme on l'enlaçait, « Voyez, » dit-elle. Elle sépara de son ongle fin les fermoirs du mystérieux bijou. Le médaillon s'ouvrit. Une sombre fleur d'amour, une pensée, y dormait, artistement tressée en cheveux noirs. « Anthony, d'après ceci, votre amant doit être quelque enfant sauvage, enchaîné par vos malices. Un dri ne vous paierait point aussi naïvement pareil gage de tendresse. C'est mal de les montrer dans le plaisir. » Anthony partit d'un éclat de rire si perlé, si joyeux, qu'elle fut obligée de boire, précipitamment, parmi ses violettes, pour ne point se faire mal. « Ne faut-il pas des cheveux dans un médaillon en témoignage ? » dit-elle. « Sans doute, sans doute. Hélas, mes chers amants. Après avoir consulté mes souvenirs, c'est l'une de mes boucles que j'ai choisie, et je la porte, par esprit de fidélité. » Fin de Anthony, enregistré par Alexandre H.
La machine à gloire des contes cruels. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet. Conte cruel par Auguste de Villiers de l'Isle-Adam. La machine à gloire. S.G.D.G. À Monsieur Stéphane Mallarmé. Sicitur ad astra. Quel chuchotement de toutes parts! Quelle animation, mêlée d'une sorte de contrainte, sur les visages! De quoi s'agit-il? Il s'agit, ah, d'une nouvelle sans pareille dans les annales récentes de l'humanité. Il s'agit de la prodigieuse invention du baron Bottom, de l'ingénieur Bathybius Bottom. La postérité se signera devant ce nom, déjà illustre de l'autre côté des mers, comme au nom du docteur Grave et de quelques autres inventeurs, véritables apôtres de l'utile. Qu'on juge si nous exagérons le tribut d'admiration, de stupeur et de gratitude qui lui est dû. Le rendement de sa machine, c'est la gloire. Elle produit de la gloire comme un rosier des roses. L'appareil de l'éminent physicien fabrique la gloire. Elle en fournit. Elle en fait naître d'une façon organique et inévitable. Elle vous en couvre, n'en voulut-on pas avoir? L'on veut s'enfuir, et cela vous poursuit. Bref, la machine Bottom est, spécialement, destinée à satisfaire ces personnes de l'un ou l'autre sexe, dites auteurs dramatiques, qui, privées à leur naissance, par une fatalité inconcevable, de cette faculté, désormais insignifiante, que les derniers littérateurs s'obstinent encore à flétrir du nom de génie, sont néanmoins jalouses de s'offrir, contre espèce, les myrtes d'un Shakespeare, les acanthes d'un Scribe, les palmes d'un Goethe et les lauriers d'un Molière. Quel homme, ce Bottom ! Jugeons-en par l'analyse, par la froide analyse de son procédé, au double point de vue abstrait et concret. Trois questions se dressent a priori. Premièrement, qu'est-ce que la gloire ? Deuxièmement, entre une machine, moyen physique, et la gloire, but intellectuel, peut-il être déterminé un point commun formant leur unité ? Troisièmement, quel est ce moyen terme ? Ces questions résolues, nous passerons à la description du mécanisme sublime qui les enveloppe d'une solution définitive. Commençons. Premièrement, qu'est-ce que la gloire ? Si vous adressez pareille question à l'un de ces plaisantins faisant la parade sur quelque tréteau de journal et versé dans l'art de tourner en dérision les traditions les plus sacrées, sans doute il vous répondra quelque chose comme ceci. « Une machine à gloire, dites-vous ? Au fait, il y a bien une machine à vapeur. Et la gloire elle-même est-elle autre chose qu'une vapeur légère ? Qu'une sorte de fumée ? Qu'une... » Naturellement, vous tournerez le dos à ce misérable Janin, dont les paroles ne sont qu'un bruit de la langue contre la voûte palatale. Adressez-vous à un poète, voici, à peu près, l'allocution qui s'échappera de son noble gosier. La gloire est le resplendissement d'un nom dans la mémoire des hommes. Pour se rendre compte de la nature de la gloire littéraire, il faut prendre un exemple. Ainsi, nous supposerons que 200 auditeurs sont assemblés dans une salle. Si vous prononcez, par hasard, devant eux le nom de « scribe », prenons celui-là, l'impression électrisante que leur causera ce nom peut, d'avance, être traduite par la série d'exclamations suivantes. Car tout le monde actuel connaît son scribe. « Cerveau compliqué !»« Génie séduisant !»« Fécond dramaturge !»« Ah oui, l'auteur de l'honneur et l'argent !» Il a fait sourire nos pères. Scribe ? Huit ? Peste ? Oh oh ! Mais, sachant tourner le couplet, profond sous un aspect riant, en voilà un qui laissait dire. Une plume autorisée, celle-là. Grand homme, il a gagné son pesant d'or. Et rompu aux ficelles du théâtre, etc. Bien. Si vous prononcez, ensuite, le nom de l'un de ses confrères, de Milton, par exemple. Il y a lieu d'espérer que, premièrement, sur les 200 personnes, 198 n'auront, certes, jamais parcouru ni même feuilleté cet écrivain, et deuxièmement, que le grand architecte de l'univers peut, seul, savoir de quelle façon les deux autres s'imagineront l'avoir lu, puisque, selon nous, il n'y a pas, sur le globe terraqué, plus d'un cent d'individus par siècle, et encore, capables de lire quoi que ce soit, voire des étiquettes de pots à moutarde. Cependant, au nom de Milton, il s'éveillera, dans l'entendement des auditeurs, à la minute même, l'inévitable arrière-pensée d'une œuvre beaucoup moins intéressante, au point de vue positif, que celle de Scribe. Mais cette réserve obscure sera néanmoins telle que, tout en accordant plus d'estime pratique à Scribe, l'idée de tout parallèle entre Milton et ce dernier semblera, d'instinct et malgré tout, comme l'idée d'un parallèle entre un sceptre et une paire de pantoufles, quelque pauvre qu'ait été Milton, quelque argent qu'ait gagné Scribe, quelque inconnu que soit longtemps demeuré Milton, quelque universellement notoire que soit, déjà, Scribe. En un mot, l'impression que laissent les vers, même inconnus, de Milton étant passés dans le nom même de leur auteur, ce sera, ici, pour les auditeurs, comme s'ils avaient lu Milton. En effet, la littérature proprement dite n'existant pas plus que l'espace pur, ce que l'on se rappelle d'un grand poète, c'est l'impression dite de sublimité qu'il nous a laissée, par et à travers son œuvre, plutôt que l'œuvre elle-même, et cette impression, sous le voile des langages humains, pénètre les traductions les plus vulgaires. Lorsque ce phénomène est formellement constaté à propos d'une œuvre, le résultat de la constatation s'appelle la gloire. Voilà ce qu'en résumé répondra notre poète. Nous pouvons l'affirmer d'avance, même au tiers état, ayant interrogé des gens qui se sont mis dans la poésie. Eh bien, nous n'hésiterons pas à répondre, nous, et pour conclure, que cette phraséologie, où perce une vanité monstrueuse, est aussi vide que le genre de gloire qu'elle préconise. L'impression ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Sommes-nous des dupes ? Il s'agit d'examiner, avec une simplicité sincère et par nous-mêmes, ce qu'est la gloire. Nous voulons faire l'essai loyal de la gloire. Celle dont on vient de nous parler, personne, parmi les gens honorables et vraiment sérieux, ne se soucierait de l'acquérir, ni même de la supporter. Lui offrit-on d'être rétribué pour cela ? Nous l'espérons, du moins, pour la société moderne. Nous vivons dans un siècle de progrès où, pour employer précisément l'expression d'un poète, le grand Boileau, un chat est un chat. En conséquence, et fort de l'expérience universelle du théâtre moderne, nous prétendons, nous, que la gloire se traduit par des signes et des manifestations sensibles pour tout le monde, et non par des discours creux, plus ou moins solennellement prononcés. Nous sommes de ceux qui n'oublient jamais que tonneau vide résonne toujours mieux que tonneau plein. Bref, nous constatons et affirmons, nous, que plus une œuvre dramatique secoue la torpeur publique, provoque d'enthousiasme, enlève d'applaudissements et fait de bruit autour d'elle, plus les lauriers et les myrtes l'environnent, plus elle fait répandre de larmes et pousser d'éclats de rire, plus elle exerce, pour ainsi dire de force, une action sur la foule, plus elle s'impose, enfin, plus elle réunit par cela même les symptômes ordinaires du chef-d'œuvre, et plus elle mérite, par conséquent, la gloire. Nier cela serait nier l'évidence. Il ne s'agit pas ici d'ergoter, mais de se baser sur des faits et des choses stables. Nous en appelons à la conscience du public, lequel, Dieu merci, ne se paye plus de mots ni de phrases. Et nous sommes sûrs qu'il est, ici, de notre avis. Cela posé, y a-t-il un accord possible entre les deux termes, en apparence incompatibles, de ce problème, de prime abord insoluble, une pure machine proposée comme moyen d'atteindre, infailliblement, un but purement intellectuel ? Oui ! L'humanité, il faut l'avouer, antérieurement à l'absolue découverte du baron, avait, même, déjà trouvé quelque chose d'approchant. Mais c'était un moyen terme à l'état rudimentaire et dérisoire. C'était l'enfance de l'art, le balbutiement. Ce moyen terme était ce qu'on appelle encore de nos jours, en termes de théâtre, la claque. En effet, la claque est une machine faite avec de l'humanité et, par conséquent, perfectible. Toute gloire a sa claque, c'est-à-dire son ombre, son côté de supercherie, de mécanisme et de néant, car le néant est l'origine de toute chose, que l'on pourrait nommer, en général, l'entre-gens, l'intrigue, le savoir-faire, la réclame. La claque théâtrale n'en est qu'une subdivision. Et lorsque l'illustre chef de service du théâtre de la Porte Saint-Martin, le jour d'une première représentation, a dit à son directeur inquiet « Tant qu'il restera dans la salle un de ces gredins de payants, je ne réponds de rien !» il a prouvé qu'il comprenait la confection de la gloire. Il a prononcé des paroles véritablement immortelles. Et sa phrase frappe comme un trait de lumière. Ô miracle ! C'est sur la claque, c'est sur elle, disons-nous, et pas sur autre chose, que Bottom a puissamment abaissé son coup d'œil d'aigle. Car le véritable grand homme n'exclut rien. Il se sert de tout en dépassant le reste. Oui, le baron l'a régénéré, sinon innové, et il la fera, enfin, sanctionner pour nous couvrir de l'expression même des journaux. Qui donc, surtout parmi le gros du public, a pénétré les mystères, les ressources infinies, les abîmes d'ingéniosité de ce protée, de cette hydre, de ce briaré qu'on appelle la claque? Il est des personnes qui, avec le sourire de la suffisance, pourront trouver à propos de nous objecter que, premièrement, la claque dégoûte les auteurs. Deuxièmement, qu'elle ennuie le public. Troisièmement, qu'elle tombe en désuétude. Nous allons simplement leur prouver à l'instant même que, si elles nous disent des choses pareilles, elles auront perdu une occasion de se taire qu'elles ne retrouveront peut-être jamais. Premièrement, un auteur dégoûté de la claque? D'abord, où est-il cet homme-là? Comme si chaque auteur, le jour d'une première, ne renforçait pas encore la claque avec ses amis, autant qu'il le peut, en leur recommandant de soigner le succès? Ce à quoi les amis, tout fiers de cette complicité, mon Dieu bien innocente, répondent invariablement, en clignant de l'œil et en montrant leurs bonnes grosses mains franches, « Comptez sur nos battoirs. » Deuxièmement, le public ennuyé de la claque? Oui, et de bien d'autres choses qu'il supporte cependant. N'est-il pas destiné au perpétuel ennui de tout et de lui-même? La preuve en est sa présence même au théâtre. Il n'est là que pour tâcher de se distraire, le malheureux, et pour essayer de se fuir lui-même. De sorte que dire cela, c'est, au fond, ne rien dire. Qu'est-ce que cela fait à la claque que le public en soit ennuyé? Il la supporte, la stipendie, et se persuade qu'elle est nécessaire, au moins pour les comédiens. Passons. Troisièmement, la claque est tombée en désuétude? Simple question. Quand donc fut-elle jamais plus florissante? Faut-il forcer le rire? Au passage qui veulent être spirituels et qui vont faire long feu, on entend, tout à coup, dans la salle, le petit susurrement d'un rire étouffé et contenu, comme celui qui contracte un diaphragme surchargé par l'ivresse d'une impression comique irrésistible. Ce petit bruit suffit, parfois, pour faire partir toute une salle. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et comme on ne veut pas avoir ri pour rien, ni s'être laissé entraîner par personne, on avoue que la pièce est drôle et qu'on s'y est amusé. Ce qui est tout. Le monsieur qui a fait ce bruit coûte à peine un Napoléon. La claque. S'agit-il de pousser jusqu'à l'ovation quelques murmures approbatifs échappés, par malheur, au public? Rome est toujours là. Il y a le « waouh-waouh ». Le « waouh-waouh », c'est le « bravo » poussé au paroxysme. C'est un abréviatif arraché par l'enthousiasme, alors que, transporté, ravi, le larynx oppressé, on ne peut plus prononcer du mot italien « bravo » que le cri guttural « waouh-waouh ». Cela commence, tout doucement, par le mot « bravo » lui-même, articulé, vaguement, par deux ou trois voix. Puis cela s'enfle, devient « brao », puis grossit de tout le public trépignant et enlevé jusqu'au cri définitif de « brao-waouh », ce qui est presque l'aboiement. C'est là l'ovation. Coup, 3 pièces d'or de la valeur de 20 francs chacune. Encore la claque. S'agit-il, dans une partie désespérée, de détourner le taureau et de distraire sa colère? Le monsieur au bouquet se présente. Voici ce que c'est. Au milieu d'une tirade fastidieuse que récite la jeune première, épouvantée du silence de mort qui règne dans la salle, un monsieur, parfaitement bien mis, le carreau de vitre à l'œil, se penche en avant d'une loge, jette un bouquet sur la scène, puis, les deux mains étendues et longues, applaudit avec bruit et lenteur, sans se préoccuper du silence général ni de la tirade qui l'interrompt. Cette manœuvre a pour but de compromettre l'honneur de la comédienne, de faire sourire le public toujours avide de l'égrillard. Le public, en effet, cligne de l'œil. On indique la chose à son voisin en se prétendant au courant. On regarde, alternativement, le monsieur et l'actrice. On jouit de l'embarras de la jeune femme. Ensuite, la foule se retire, un peu consolée, par l'incident, de la stupidité de la pièce. Et l'on accourt de rechef au théâtre, dans l'espoir d'une confirmation de l'événement. Somme toute, demi-succès pour l'auteur. Coût, quelques 30 francs, non compris les fleurs. Toujours la claque. En finirions-nous jamais si nous voulions examiner toutes les ressources d'une claque bien organisée? Mentionnons, toutefois, pour les pièces dites corsées et les drames à émotion, les cris de femmes effrayées, les sanglots étouffés, les vraies larmes communicatives, les petits rires brusques, et aussitôt contenus, du spectateur qui comprend après les autres, un écu de 6 livres, les grincements de tabatières aux généreuses profondeurs desquelles l'homme ému a recours, les hurlements, suffocations, bis, rappels, larmes silencieuses, menaces, rappels avec hurlements en sus, marques d'approbation, opinions émises, couronnes, principes, convictions, tendances morales, attaques d'épilepsie, accouchements, soufflets, suicides, bruit de discussion, l'art pour l'art, la forme et l'idée, etc., etc. Arrêtons-nous. Le spectateur finirait par s'imaginer qu'il fait, lui-même, partie de la claque à son insu, ce qui est d'ailleurs l'absolue et incontestable vérité. Mais il est bon de laisser un doute en son esprit à cet égard. Le dernier mot de l'art est proféré lorsque la claque en personne crie « Ah bah la claque !» puis finit par avoir l'air d'être entraînée elle-même et applaudie à la fin de la pièce, comme si elle était le public réel et comme si les rôles étaient intervertis. C'est elle, alors, qui tempère les exaltations trop fougueuses et fait des restrictions. Statue vivante, assise en pleine lumière, au milieu du public, la claque est la constatation officielle, le symbole avoué de l'incapacité où se trouve la foule de discerner, par elle-même, la valeur de ce qu'elle entend. Bref, la claque est à la gloire dramatique, ce que les pleureuses étaient à la douleur. Maintenant, c'est le cas de s'écrier, avec le magicien des mille et une nuits, « Qui veut changer les vieilles lampes pour des neuves ?» Il s'agissait de trouver une machine qui fût à la claque ce que le chemin de fer est aux coches, et préserva la gloire dramatique de ces conditions de versatilités et d'aléas dont elle relève quelquefois. Il s'agissait, d'abord, de remplacer les côtés imparfaits, éventuels, hasardeux, de la claque simplement humaine, et de les perfectionner par l'absolue certitude du pur mécanisme. Ensuite, et c'était ici la grosse difficulté, de découvrir, en l'y réveillant à coup sûr, dans l'âme publique, le sentiment grâce auquel les manifestations de gloire brute de la machine se trouveraient épousées, sanctionnées et ratifiées comme moralement valables par l'esprit même de la majorité. Là, seulement, était le moyen terme. Encore un coup, cela semblait impossible. Le baron Bottom n'a point reculé devant ce mot, qui devrait être, une bonne fois, rayé du dictionnaire, et désormais, avec sa machine, l'acteur n'eut-il pas plus de mémoire qu'un lino, l'auteur fut-il l'hébétude en personne et le spectateur fut-il sourd comme un pot, ce sera un véritable triomphe. À proprement parler, la machine, c'est la salle elle-même. Elle y est adaptée. Elle en fait partie constitutive. Elle y est répandue de telle sorte que toute œuvre, dramatique ou non, devient, en y entrant, un chef-d'œuvre. L'économie d'une salle telle qu'on la conçoit, d'après celle des théâtres actuels, est sensiblement modifiée. Le grand ingénieur traite à forfait, se charge de toutes les avances de transformation et défalque sur les droits des auteurs à 10% de rabais sur la claque ordinaire. Il y a brevets pris et sociétés en commandite établies à New York, à Barcelone et à Vienne. Le coût de la machine, pour son adaptation à une salle moyenne, n'est pas très dispendieux. Il n'y a que les premiers frais d'assez importants, l'entretien d'un appareil bien conditionné n'étant pas onéreux. Les détails mécaniques, les moyens employés sont simples comme tout ce qui est vraiment beau. C'est la naïveté du génie. On croit rêver. On n'ose pas comprendre. On en mord le bout de son index en baissant les yeux avec coquetterie. Ainsi, les petits amours dorés et roses des balcons, les cariatides des avant-scènes, etc., sont multipliés et sculptés presque partout. C'est à leur bouche, précisément, orifice de phonographe, que sont placés les petits trous à soufflet qui, mus par l'électricité, profèrent soit les waouh waouh, soit les cris, les « à la porte, la cabale !» les rires, les sanglots, les bis, les discussions, principes, bruits de tabatière, etc., et tous les bruits publics perfectionnés. Les principes, surtout, dit Bottom, sont garantis. Ici, la machine se complique insensiblement, et la conception devient de plus en plus profonde. Les tuyaux de gaz à lumière sont alternés d'autres tuyaux, ceux des gaz hilarants et d'acryphores. Les balcons sont machinés à l'intérieur. Ils renferment d'invisibles points en métal, destinés à réveiller, au besoin, le public, et nantis de bouquets et de couronnes. Brusquement, ils jonchent la scène de myrtes et de lauriers, avec le nom de l'auteur écrit en lettres d'or. Sous chacun des sièges, fauteuils d'orchestre et de balcons, désormais adhérents au parquet, est replié, pour ainsi dire postérieurement, une paire de mains très belles, en bois de chêne, construites d'après les planches de Débarol, sculptées à l'emporte-pièce et recouvertes de gants en double cuir de Vaupaille pour compléter l'illusion. Il serait superflu d'en indiquer la fonction, ici. Ces mains sont scrupuleusement modelées sur le fac-similé des patrons les plus célèbres afin que la qualité des applaudissements en soit meilleure. Ainsi, les mains de Napoléon, de Marie-Louise, de Madame de Sévigné, de Shakespeare, de Dutérail, de Goethe, de Chapelain et du Dante, décalquées sur les dessins des premiers ouvrages de chiromancie, ont été choisis, de préférence, comme étalons et types généraux à confier aux tourneurs. Des bouts de canne, nerfs de bœuf et bois de fer, des talons en caoutchouc bouilli, ferrés de forts clous, sont dissimulés dans les pieds mêmes de chaque siège. Mus par des ressorts à boudin, ils sont destinés à frapper, alternativement et rapidement, le plancher dans les ovations, rappels et trépignements. À la moindre interruption du courant électro-aimant, la secousse mettra tout en branle avec un ensemble tel que jamais, de mémoire de claque, on n'aura rien entendu de pareil. Cela croulera d'applaudissements. Et la machine est si puissante qu'au besoin elle pourrait faire crouler, littéralement, la salle elle-même. L'auteur serait enseveli dans son triomphe, pareil au jeune captal de Buch après l'assaut de Ravenne, et que pleurèrent toutes les femmes. C'est un tonnerre, une salve, une apothéose d'acclamations, de cris, de bravis, d'opinions, de waouh waouh, de bruits de tout genre, même inquiétants, de spasmes, de convictions, de trépidations, d'idées et de gloire, éclatant de tous les côtés à la fois, aux passages les plus fastidieux ou les plus beaux de la pièce, sans distinction. Il n'y a plus d'aléas possibles. Et il se passe alors, ici, le phénomène magnétique indéniable qui sanctionne ce tapage et lui donne la valeur absolue. Ce phénomène est la justification de la machine à gloire qui, sans lui, serait presque une mystification. Le voici, c'est là le grand point, le trait hors ligne, l'éclair éblouissant et génial de l'invention de Bottom. Remémorons-nous, avant tout, pour bien saisir l'idée de ce génie, que les particuliers n'aiment pas à fronder l'opinion publique. Le propre de chacune de leurs âmes est d'être convaincue, quand même, de cet axiome, dès le berceau. Cet homme réussit, donc, en dépit des sots et des envieux, c'est un esprit glorieux et capable. Imitons-le si nous le pouvons, et soyons de son côté, à tout hasard, ne fût-ce que pour n'avoir pas l'air d'un imbécile. Voilà le raisonnement caché, n'est-il pas vrai, dans l'atmosphère même de la salle. Maintenant, si la claque enfantine dont nous jouissons suffit, aujourd'hui, pour amener les résultats d'entraînement que nous avons signalés, que sera-ce avec la machine, étant donné ce sentiment général? Le public les subissant déjà, tout en se sachant fort bien la dupe de cette machine humaine, la claque les éprouvera, ici, d'autant mieux qu'ils lui seront inspirés, cette fois, par une vraie machine. L'esprit du siècle, ne l'oublions pas, est aux machines. Le spectateur, donc, si froid qu'il puisse être, en entendant ce qui se passe autour de lui, se laisse bien facilement enlever par l'enthousiasme général. C'est la force des choses. Bientôt, le voici qui applaudit à tout rompre et de confiance. Il se sent, comme toujours, de l'avis de la majorité. Et il ferait, alors, plus de bruit que la machine elle-même, s'il le pouvait, de crainte de se faire remarquer. De sorte, et voilà la solution du problème, un moyen physique réalisant un but intellectuel, que le succès devient une réalité, que la gloire passe véritablement dans la salle, et que le côté illusoire de l'appareil Bottom disparaît, en se fusionnant, positivement, dans le resplendissement du vrai. Si la pièce était d'un simple agota, ou de quelque cuistre tellement baveux que l'audition, même d'une seule scène, en fût impossible, pour parer à tout aléa, les applaudissements ne cesseraient pas du lever à la chute du rideau. Pas de résistance possible. Au besoin, des fauteuils seraient ménagés pour les poètes avérés et convaincus de génie, pour les récalcitrants, en un mot, et la cabale. La pile, en envoyant son étincelle dans les bras des fauteuils suspects, ferait applaudir de force leurs habitants. L'on dirait « Il paraît que c'est bien beau puisque eux-mêmes sont obligés d'applaudir ». Inutile d'ajouter que si cela faisait jamais, grâce à l'intempestive intervention, il faut tout prévoir, de quelques chefs d'État mal avisés, représenter aussi leurs ouvrages sans coupure, collaborateurs éclairés, ni immixtion directoriale, la machine, par une rétroversion due à l'inépuisable et vraiment providentielle invention de Bottom, saurait venger les honnêtes gens. C'est-à-dire qu'au lieu de couvrir de gloire, cette fois, elle hurait, brairait, sifflerait, ruerait, coasserait, glapirait et conspurait tellement la pièce qu'il serait impossible d'en distinguer un traître mot. Jamais, depuis la fameuse soirée du Tannhauser à l'Opéra de Paris, on n'aurait entendu chose pareille. De cette façon, la bonne foi des personnes bien, et surtout de la bourgeoisie, ne serait pas surprise, comme il arrive, hélas, trop souvent. L'éveil serait donné, tout de suite, comme, jadis, au Capitole, lors de l'attaque des Gaulois. 20 Andréides sortis des ateliers d'Edison, à figure digne, à sourire discrète et entendu, la brochette choisie à la boutonnière, sont d'attache à la machine. En cas d'absence ou d'indisposition de leur modèle, on les distribuerait dans les loges avec des attitudes de mépris profond qui donneraient le ton aux spectateurs. Si, par extraordinaire, ces derniers essayaient de se rebeller et de vouloir entendre, les automates crieraient « Au feu !» ce qui enlèverait la situation dans un meurtrier tohu-bohu d'étouffement et de clameur réelle. La pièce ne s'en relèverait pas. Quant à la critique, il n'y a pas à s'en préoccuper. Lorsque l'œuvre dramatique serait écrite par des gens recommandables, par des personnes sérieuses et influentes, par des notabilités conséquentes et de poids, la critique, à part quelques purs insociables et dont les voix, perdues dans le tumulte, ne feraient qu'en renforcer le vacarme, se trouverait toute conquise. Elle rivaliserait d'énergie avec l'appareil Bottom. D'ailleurs, les articles critiques, confectionnés à l'avance, sont aussi une dépendance de la machine. La rédaction en est simplifiée par un triage de tous les vieux clichés, rhabillés et revernis à neuf, qui sont lancés par des employés Bottom à l'instar du moulin à prière des Chinois, nos précurseurs en toute chose du progrès. L'appareil Bottom réduit, à peu près de la même manière, la besogne de la critique. Il épargne ainsi bien des sueurs, bien des fautes de grammaire élémentaire, bien des coqs à l'âne et bien des phrases vides qu'emporte le vent. Les feuilletonistes, amateurs du doux farniente, pourront traiter avec le baron à son arrivée. Le secret le plus inviolable est assuré en cas d'un puéril amour-propre. Il y a prix fixe, marqué en chiffres connus, en tête des articles. C'est tant par mot de plus de 3 caractères. Quand l'article est glorieux pour le signataire, la gloire se paye à part. Comme régularité de ligne, comme œil, comme logique stricte et comme mécanique filiation d'idées, ces articles ont, sur les articles faits à la main, la même et incontestable supériorité que, par exemple, les ouvrages d'une machine à coudre ont sur ceux de l'ancienne aiguille. Il n'y a pas de comparaison. Que sont les forces d'un homme, aujourd'hui, devant celles d'une machine? C'est surtout après la chute du drame d'un grand poète que les bienfaisants effets de ces articles Bottom seraient appréciables. Là serait, comme on dit, le coup de grâce. Comme choix et lessivage des plus décrépites, tortueuses, nauséabondes, calomnieuses et baveuses platitudes, gloussées au sortir de l'égout natal, ces articles ne laisseraient vraiment plus rien à désirer au public. Ils sont tout prêts. Ils donnent l'illusion complète. On croirait, d'une part, lire des articles humains sur les grands hommes vivants, et, d'autre part, quel fini dans le venimeux, quelle quintessence d'abjection! Leur apparition sera, certainement, l'un des grands succès de ce siècle. Le baron en a soumis quelques spécimens à plusieurs de nos plus spirituels critiques. Ils en soupiraient et en laissaient tomber la plume d'admiration. Cela exude à chaque virgule cette impression de quiétude qui émane, par exemple, de ce mot délicieux que, tout en s'éventant négligemment de son mouchoir de dentelle, le marquis de D, directeur de la Gazette du Roi, disait à Louis XIV. « Sire, si l'on envoyait un bouillon au grand Corneille qui se meurt. » La chambre générale du grand clavier de la machine est installée sous l'excavation appelée, au théâtre, le trou du souffleur. Là se tient le préposé, lequel doit être un homme sûr, d'une honorabilité éprouvée et ayant l'extérieur digne d'un gardien de passage, par exemple. Il a sous la main les interrupteurs et les commutateurs électriques, les régulateurs, les éprouvettes, les clés des tuyaux des gaz proto et bioxyde d'azote, effluves ammoniacaux et autres, les boutons de ressort des leviers, des bielles et des moufles. Le manomètre marque tant de pression, tant de kilogrammètres d'immortalité. Le compteur additionne, et l'auteur dramatique paye sa facture, que lui présente quelques jeunes beautés, en grand costume de renommée, et entouré d'une gloire de trompette. Celle-ci remet alors à l'auteur, en souriant, au nom de la postérité, et aux lueurs d'un feu de Bengale olive, couleur de l'espérance, lui remet, disons-nous, à titre d'offrande, un buste ressemblant, garanti, nimbé et lauré, le tout en béton aggloméré, système Coignet. Tout cela peut se faire à l'avance, avant la représentation. Si l'auteur tenait même à ce que sa gloire fût non seulement présente et future, mais fût même passée, le baron a tout prévu. La machine peut obtenir des résultats rétroactifs. En effet, des conduits de gaz hilarants, habilement distribués dans les cimetières de premier ordre, doivent, chaque soir, faire sourire de force les aïeux dans leur tombeau. Pour ce qui est du côté pratique et immédiat de l'invention, les devises ont été scrupuleusement dressées. Le prix de transformation du Grand Théâtre, à New York, en salle sérieuse, n'excède pas 15 000 $. Celui de La Haye, le baron en répondrait moyennant 16 000 crowns. Moscou et Saint-Pétersbourg seraient aptes moyennant 40 000 roubles environ. Les prix, pour les théâtres de Paris, ne sont pas encore fixés, Bottom voulant être sur les lieux pour bien s'en rendre compte. En somme, on peut affirmer désormais que l'énigme de la gloire dramatique moderne, telle que la conçoivent les gens de simple bon sens, vient d'être résolue. Elle est, maintenant, à leur portée. Ce sphinx a trouvé son Œdipe. Fin de La Machine à gloire. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet.
Duke of Portland, des contes cruels. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Conte cruel par Auguste de Villiers de l'Isle-Adam, Duke of Portland. À Monsieur Henri la Luberne. Gentlemen, you are welcome to Elsinore. Shakespeare. Hamlet. Attends-moi là, je ne manquerai pas, certes, de te rejoindre dans ce creux vallon. L'évêque Hall. Sur la fin de ces dernières années, à son retour du Levant, Richard, duc de Portland, le jeune lord jadis célèbre dans toute l'Angleterre pour ses fêtes de nuit, ses victorieux pur sang, sa science de boxeur, ses chasses aux renards, ses châteaux, sa fabuleuse fortune, ses aventureux voyages et ses amours, avait disparu brusquement. Une seule fois, un soir, on avait vu son séculaire carrosse doré traverser Store baissé au triple galop et entouré de cavaliers portant des flambeaux Hyde Park. Puis, réclusion si soudaine qu'étrange, le duc s'était retiré dans son familial manoir. Il s'était fait l'habitant solitaire de ce massif manoir à créneaux, construit en de vieux âges, au milieu de sombres jardins et de pelouses boisées sur le cap de Portland. Là, pour tout voisinage, un feu rouge qui éclaire à toute heure à travers la brume les lourds steamers tanguant au large et entrecroisant leurs lignes de fumée sur l'horizon. Une sorte de sentier en pente vers la mer, une sinueuse allée, creusée entre des étendues de roches et bordée tout au long de pins sauvages, ouvre en bas ses lourdes grilles dorées sur le sable même de la plage, immergée aux heures du reflux. Sous le règne de Henri VI, des légendes se dégagèrent de ce château fort, dont l'intérieur, au jour des vitraux, resplendit de richesses féodales. Sur la plateforme qui en relie les 7 tours, veillent encore entre chaque embrasure, ici un groupe d'archers, là quelques chevaliers de pierre, sculptés, au temps des croisades, dans des attitudes de combat. La nuit, ces statues, dont les figures maintenant effacées par les lourdes pluies d'orage et les frimas de plusieurs centaines d'hivers, sont d'expression maintes fois changées par les retouches de la foudre, offrent un aspect vague qui se prête aux plus superstitieuses visions. Et lorsque, soulevés en masse multiforme par une tempête, les flots se ruent dans l'obscurité contre le promontoire de Portland, l'imagination du passant perdu qui se hâte sur les grèves, aidée surtout des flammes versées par la lune à ses ombres granitiques, peut songer en face de ce castel à quelque éternel assaut, soutenu par une héroïque garnison d'hommes d'armes fantômes contre une légion de mauvais esprits. Que signifiait cet isolement de l'insoucieux seigneur anglais? Subissait-il quelque attaque de spleen? Lui, ce cœur si natalement joyeux, impossible! Quelque mystique influence à portée de son voyage en Orient? Peut-être. L'on s'était inquiété à la cour de cette disparition. Un message de Westminster avait été adressé par la reine au Lord Invisible. Accoudée auprès d'un candélabre, la reine Victoria s'était attardée ce soir-là en audience extraordinaire. À côté d'elle, sur un tabouret d'ivoire, était assise une jeune liseuse, Miss Helena H. Une réponse, scellée de noir, arriva de la part de Lord Portland. L'enfant, ayant ouvert le pli du cale, parcourut de ses yeux bleus, souriante lueur du ciel, le peu de lignes qu'il contenait. Tout à coup, sans une parole, elle le présenta, paupières fermées, à Sa Majesté. La reine lut donc, elle-même, en silence. Au premier mot, son visage d'habitude impassible parut s'empreindre d'un grand étonnement triste. Elle tressaillit même. Puis, muette, approcha le papier des bougies allumées, laissant tomber ensuite sur les dalles la lettre qui se consumait. « My Lord, » dit-elle à ceux des pères qui se trouvaient présents à quelques pas, « vous ne reverrez plus notre cher duc de Portland. Il ne doit plus siéger au Parlement, nous l'en dispensons par un privilège nécessaire. Que son secret soit gardé. Ne vous inquiétez plus de sa personne et que nul de ses hôtes ne cherche jamais à lui adresser la parole. » Puis congédiant d'un geste le vieux courrier du château, « vous direz au duc de Portland ce que vous venez de voir et d'entendre, » ajouta-t-elle après un coup d'œil sur les cendres noires de la lettre. Sur ces paroles mystérieuses, Sa Majesté s'était levée pour se retirer en ses appartements. Toutefois, la vue de sa liseuse demeurait immobile et comme endormie, la joue appuyée sur son jeune bras blanc posé sur les moires pourpres de la table. La reine, surprise encore, murmura doucement « On me suit, Helena ?» La jeune fille, persistant dans son attitude, on s'empressa auprès d'elle. Sans qu'aucune pâleur eût décelé son émotion, un lys, comment pâlir, elle s'était évanouie. Une année après les paroles prononcées par Sa Majesté, pendant une orageuse nuit d'automne, les navires de passage à quelques lieues du cap de Portland virent le manoir illuminé. Oh, ce n'était pas la première des fêtes nocturnes offertes à chaque saison par le Lord absent. Et l'on en parlait, car leur sombre excentricité touchait au fantastique, le duc n'y assistant pas. Ce n'était pas dans les appartements du château que ces fêtes étaient données. Personne n'y entrait plus. Lord Richard, qui habitait solitairement le donjon même, paraissait les avoir oubliés. Dès son retour, il avait fait recouvrir par d'immenses glaces de Venise les murailles et les voûtes des vastes souterrains de cette demeure. Le sol en était maintenant dallé de marbre et d'éclatantes mosaïques. Des tentures de hautes lisses, entr'ouvertes sur des torsades, séparaient seules une enfilade de salles merveilleuses, où sous d'étincelants balustres d'or tout en lumière apparaissait une installation de meubles orientaux, brodés d'arabesques précieuses, au milieu de floraisons tropicales, de jets d'eau de senteur en des vasques de porphyre et de belles statues. Là, sur une amicale invitation du châtelain de Portland, au regret d'être absent toujours, se rassemblait une foule brillante, toute l'élite de la jeune aristocratie de l'Angleterre, des plus séduisants artistes ou des plus belles insoucieuses de la gentry. Lord Richard était représenté par l'un de ses amis d'autrefois, et il se commençait alors une nuit princièrement libre. Seul à la place d'honneur du festin, le fauteuil du jeune lord restait vide, et l'écusson ducal qui en surmontait le dossier demeurait toujours voilé d'un long crêpe de deuil. Les regards, bientôt enjoués par l'ivresse ou le plaisir, s'en détournaient volontiers vers des présences plus charmantes. Ainsi, à minuit, s'étouffait sous terre à Portland, dans les voluptueuses salles, au milieu des capiteux arômes des exotiques fleurs, les éclats de rire, les baisers, le bruit des coupes, des chants enivrés et des musiques. Mais si l'un des convives, à cette heure-là, se fut levé de table, et pour respirer l'air de la mer se fut aventuré au dehors, dans l'obscurité sur les grèves, à travers les rafales des désolés vents du large, il eût aperçu peut-être un spectacle capable de troubler sa bonne humeur, au moins pour le reste de la nuit. Souvent, en effet, vers cette heure-là même, dans les détours de l'allée qui descendait vers l'océan, un gentleman enveloppé d'un manteau, le visage recouvert d'un masque d'étoffe noire auquel était adaptée une capuce circulaire qui cachait toute la tête, s'acheminait la lueur d'un cigare à la main longuement gantée vers la plage. Comme par une fantasmagorie d'un goût suranné, deux serviteurs aux cheveux blancs le précédaient, deux autres le suivaient, à quelques pas élevant de fumeuses torches rouges. Au-devant d'eux marchait un enfant, aussi en livrée de deuil, et ce page agitait une fois par minute le court battement d'une cloche pour avertir au loin que l'on s'écarta sur le passage du promeneur. Et l'aspect de cette petite troupe laissait une impression aussi glaçante que le cortège d'un condamné. Devant cet homme s'ouvrait la grille du rivage. L'escorte le laissait seul et il s'avançait alors au bord des flots. Là, comme perdu en un pensif désespoir et s'enivrant de la désolation de l'espace, il demeurait taciturne, pareil au spectre de pierre de la plateforme, sous le vent, la pluie et les éclairs, devant le mugissement de l'océan. Après une heure de cette songerie, le morne personnage, toujours accompagné des lumières et précédé du glas de la cloche, reprenait vers le donjon le sentier d'où il était descendu. Et souvent, chancelant en chemin, il s'accrochait aux aspérités des roches. Le matin qui avait précédé cette fête d'automne, la jeune lectrice de la reine, toujours en grand deuil depuis le premier message, était en prière dans l'oratoire de Sa Majesté, lorsqu'un billet écrit par l'un des secrétaires du duc lui fut remis. Il ne contenait que ces deux mots qu'elle lut avec un frémissement. Ce soir. C'est pourquoi vers minuit, l'une des embarcations royales avait touché à Portland. Une juvénile forme féminine en mante sombre en était descendue seule. La vision, après s'être orientée sur la plage crépusculaire, s'était hâtée en courant vers les torches du côté du tintement apporté par le vent. Sur le sable, accoudé à une pierre et de temps à autre agité d'un tressau mortel, l'homme au masque mystérieux était étendu dans son manteau. « Ô malheureux !» s'écria dans un sanglot en se cachant la face la jeune apparition lorsqu'elle arriva tête nue à côté de lui. « Adieu, adieu » répondit-il. On entendait au loin des chants et des rires, venus des souterrains de la féodale demeure dont l'illumination ondulait, reflétée sur les flots. « Tu es libre !» ajouta-t-il en laissant retomber sa tête sur la pierre. « Tu es délivré !» répondit la blanche advenue en élevant une petite croix d'or vers les cieux remplis d'étoiles devant le regard de celui qui ne parlait plus. Après un grand silence, et comme elle demeurait ainsi devant lui, les yeux fermés et immobiles en cette attitude, « Au revoir, Elena !» murmura celui-ci dans un profond soupir. Lorsqu'après une heure d'attente, les serviteurs se rapprochèrent, ils aperçurent la jeune fille à genoux sur le sable et priant auprès de leur maître. « Le duc de Portland est mort, dit-elle. » et s'appuyant à l'épaule de l'un de ses vieillards, il regarda l'embarcation qu'il avait amenée. 3 jours après, on pouvait lire cette nouvelle dans le journal de la cour. Miss Helena H., la fiancée du duc de Portland, convertie à la religion orthodoxe, a pris hier le voile aux carmélites de L. Quel était donc le secret dont le puissant lord venait de mourir? Un jour, dans ses lointains voyages en Orient, s'étant éloigné de sa caravane aux environs d'Antioche, le jeune duc, en causant avec les guides du pays, entendit parler d'un mendiant dont on s'écartait avec horreur et qui vivait seul au milieu des ruines. L'idée le prit de visiter cet homme, car nul n'échappe à son destin. Or, ce Lazare funèbre était ici-bas le dernier dépositaire de la grande lèpre antique, de la lèpre sèche et sans remède, du mal inexorable dont un dieu seul pouvait ressusciter jadis les jobs de la légende. Seul donc, Portland, malgré les prières de ses guides éperdus, osa braver la contagion dans l'espèce de caverne où râlait ce paria de l'humanité. Là même, par une forfanterie de grand gentilhomme, intrépide jusqu'à la folie, en donnant une poignée de pièces d'or à cet agonisant misérable, le pâle seigneur avait tenu à lui serrer la main. À l'instant même, un nuage était passé sur ses yeux. Le soir, se sentant perdu, il avait quitté la ville et l'intérieur des terres et dès les premières atteintes, avait regagné la mer pour venir tenter une guérison dans son manoir, ou y mourir. Mais devant les ravages ardents qui se déclarèrent durant la traversée, le duc vit bien qu'il ne pouvait conserver d'autre espoir qu'en une prompte mort. C'en était fait. Adieu, jeunesse, éclat du vieux nom, fiancée aimante, postérité de la race. Adieu, force, joie, fortune incalculable, beauté, avenir. Toute espérance s'était engouffrée dans le creux de la poignée de main terrible. Le lord avait hérité du mendiant. Une seconde de bravade, un mouvement trop noble, plutôt, avait emporté cette existence lumineuse dans le secret d'une mort désespérée. Ainsi périt le duc Richard de Portland, le dernier lépreux du monde. Fin de Duke of Portland.
Virginie et Paul, des contes cruels. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Contes cruels par Auguste de Villiers de l'Isle-Adam. Virginie et Paul. À Mademoiselle Augusta Holmes, per amica silentia lune, Virgile. C'est la grille des vieux jardins du pensionnat. 10 heures sonnent dans le lointain. Il fait une nuit d'avril, claire, bleue et profonde. Les étoiles semblent d'argent. Les vagues du vent, faibles, ont passé sur les jeunes roses. Les feuillages bruissent. Le jet d'eau retombe neigeux au bout de cette grande allée d'acacias. Au milieu du grand silence, un rossignol, âme de la nuit, fait scintiller une pluie de notes magiques. Alors que les 16 ans vous enveloppaient de leur ciel d'illusion, avez-vous aimé une toute jeune fille? Vous souvenez-vous de ce gant oublié sur une chaise, dans la tonnelle? Avez-vous éprouvé le trouble d'une présence inespérée, subite? Avez-vous senti vos joues brûler lorsque, pendant les vacances, les parents souriaient de votre timidité l'un près de l'autre? Avez-vous connu le doux infini de 2 yeux purs qui vous regardaient avec une tendresse pensive? Avez-vous touché, de vos lèvres, les lèvres d'une enfant tremblante et brusquement pâlie, dont le sein battait contre votre cœur oppressé de joie? Les avez-vous gardées, au fond du reliquaire, les fleurs bleues cueillies le soir, près de la rivière, en revenant ensemble? Cachées, depuis les années séparatrices, au plus profond de votre cœur, un tel souvenir est comme une goutte d'essence de l'Orient enfermée en un flacon précieux. Cette goutte de baume est si fine et si puissante que, si l'on jette le flacon dans votre tombeau, son parfum, vaguement immortel, durera plus que votre poussière. Oh, s'il est une chose douce, par un soir de solitude, c'est de respirer, encore une fois, l'adieu de ce souvenir enchanté. Voici l'heure de l'isolement. Les bruits du travail se sont mus dans le faubourg. Mes pas m'ont conduit jusqu'ici, au hasard. Cette bâtisse fut, autrefois, une vieille abbaye. Un rayon de lune fait voir l'escalier de pierre derrière la grille et illumine à demi les vieux saints sculptés qui ont fait des miracles et qui, sans doute, ont frappé contre ces dalles leur humble front éclairé par la prière. Ici, les pas des chevaliers de Bretagne ont résonné autrefois, alors que l'anglais tenait encore nos cités angevines. À présent, des jalousies vertes et gaies rajeunissent les sombres pierres des croisées et des murs. L'abbaye est devenue une pension de jeunes filles. Le jour, elles doivent y gazouiller comme des oiseaux dans les ruines. Parmi celles qui sont endormies, il est plus d'une enfant qui, aux premières vacances de Pâques, éveillera dans le cœur d'un jeune adolescent la grande impression sacrée, et peut-être que déjà... Chut, on a parlé. Une voix très douce vient d'appeler, tout bas. Paul, Paul. Une robe de mousseline blanche, une ceinture bleue ont flotté un instant près de ce pilier. Une jeune fille semble parfois une apparition. Celle-ci est descendue maintenant. C'est l'une d'entre elles. Je vois la pèlerine du pensionnat et la croix d'argent du cou. Je vois son visage. La nuit se fond avec ses traits baignés de poésie. Oh, cheveux si blonds d'une jeunesse mêlée d'enfance encore. Oh, bleu regard dont l'azur est si pâle qu'il semble encore tenir de l'éther primitif. Mais quel est ce tout jeune homme qui se glisse entre les arbres? Il se hâte, il touche le pilier de la grille. Virginie, Virginie, c'est moi! Oh, plus bas, me voici, Paul! Ils ont 15 ans tous les deux. C'est un premier rendez-vous. C'est une page de l'idylle éternelle. Comme ils doivent trembler de joie l'un et l'autre. Salut, innocence divine, souvenir, fleur ravivée. Paul, mon cher cousin! Donnez-moi votre main à travers la grille, Virginie. Oh, mais est-elle jolie au moins? Tenez, c'est un bouquet que j'ai cueilli dans le jardin de papa. Il ne coûte pas d'argent, mais c'est de cœur. Merci, Paul. Mais comme il est essoufflé, comme il a couru. Ah, c'est que papa a fait une affaire aujourd'hui, une affaire très belle. Il a acheté un petit bois à moitié prix. Des gens étaient obligés de vendre vite, une bonne occasion. Alors, comme il était content de la journée, je suis restée avec lui pour qu'il me donnât un peu d'argent. Et puis, je me suis pressée pour arriver à l'heure. Nous serons mariés dans 3 ans si vous passez bien vos examens, Paul. Oui, je serai un avocat. Quand on est un avocat, on attend quelques mois pour être connu. Et puis, on gagne aussi un peu d'argent. Souvent beaucoup d'argent. Oui. Est-ce que vous êtes heureuse au pensionnat, ma cousine? Oh oui, Paul. Surtout depuis que Madame Panier a pris de l'extension. D'abord, on n'était pas si bien. Et maintenant, il y a ici des jeunes filles des châteaux. Je suis l'amie de toutes ces demoiselles. Oh, elles ont de bien jolies choses. Et alors, depuis leur arrivée, nous sommes bien mieux. Bien mieux, parce que Madame Panier peut dépenser un peu plus d'argent. C'est égal, ces vieux murs, ce n'est pas très gai d'être ici. Si, on s'habitue à ne pas les regarder. Mais voyons, Paul, avez-vous été voir notre bonne tante? Ce sera sa fête dans 6 jours. Il faudra lui écrire un compliment. Elle est si bonne. Je ne l'aime pas beaucoup, moi, ma tante. Elle m'a donné l'autre fois de vieux bonbons du dessert au lieu, enfin, d'un vrai cadeau. Soit une jolie bourse, soit des petites pièces pour mettre dans ma tirelire. Paul, Paul, ce n'est pas bien. Il faut être toujours bien aimante avec elle et l'aménager. Elle est vieille et elle nous laissera aussi un peu d'argent.
C'est vrai.
Oh, Virginie, entends-tu ce rossignol?
Paul, prenez bien garde de me tutoyer quand nous ne serons pas seuls.
Ma cousine, puisque nous devons nous marier. D'ailleurs, je ferai attention. Mais comme c'est joli, le rossignol! Quelle voix pure et argentine!
Oui, c'est joli, mais ça empêche de dormir. Il fait très doux ce soir. La lune est argentée. C'est beau.
Je savais bien que vous aimiez la poésie, ma cousine. »
Oh oui, la poésie. J'étudie le piano.
Au collège, j'ai appris toutes sortes de beaux vers pour vous les dire, ma cousine. Je sais presque tout Boileau par cœur. Si vous voulez, nous irons souvent à la campagne quand nous serons mariés, Edith.
Certainement, Paul. D'ailleurs, maman me donnera en dot sa petite maison de campagne où il y a une ferme. Nous irons là souvent passer l'été, et nous agrandirons cela un peu si c'est possible. La ferme rapporte aussi un peu d'argent.
Ah, tant mieux. Et puis, l'on peut vivre à la campagne pour beaucoup moins d'argent qu'à la ville. C'est mes parents qui m'ont dit cela. J'aime la chasse, et je tuerai aussi beaucoup de gibier. Avec la chasse, on économise aussi un peu d'argent.
Puis c'est la campagne, mon Paul, et j'aime tant tout ce qui est poétique.
J'entends du bruit là-haut, hein?
Chut, il faut que je remonte. Madame Panier pourrait s'éveiller. Au revoir, Paul.
Virginie, vous serez chez ma tante dans 6 jours au dîner? J'ai peur aussi que papa ne s'aperçoive que je me suis échappée. Il ne me donnerait plus d'argent.
Votre main, vite!
Pendant que j'écoutais, ravi, le bruit céleste d'un baiser, les deux anges se sont enfuis. L'écho attardé des ruines vaguement répétait
« De l'argent, un peu d'argent !»
Oh, jeunesse, printemps de la vie, soyez bénis, enfants, dans votre extase, vous dont l'âme est simple comme la fleur, vous dont les paroles, évoquant d'autres souvenirs à peu près pareils à ce premier rendez-vous, font verser de douces larmes à un passant. Fin de Virginie et Paul, enregistré par Ezoie, en Belgique, en février 2010.
Le convive des dernières fêtes, première partie, des contes cruels. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet. Conte cruel par Auguste de Villiers de l'Isle-Adam. Le convive des dernières fêtes, première partie. À Madame Nina de Villars. L'inconnu, c'est la part du lion. François Arago. Le commandeur de Pierre peut venir souper avec nous. Il peut nous tendre la main. Nous la prendrons encore. Peut-être sera-ce lui qui aura froid. Un soir de carnaval de l'année 1860, c'est l'un de mes amis et moi, par une circonstance absolument due au hasard de l'ennui ardent et vague, nous étions seuls, dans une avant-scène, au bal de l'opéra. Depuis quelques instants, nous admirions, à travers la poussière, la mosaïque tumultueuse des masques hurlant sous les lustres et s'agitant sous l'archet sabbatique de Strauss. Tout à coup, la porte de la loge s'ouvrit. 3 dames, avec un frou-frou de soie, s'approchèrent entre les chaises lourdes et, après avoir ôté leurs masques, nous dirent « Bonsoir ». C'étaient 3 jeunes femmes d'un esprit et d'une beauté exceptionnelles. Nous les avions parfois rencontrées dans le monde artistique de Paris. Elles s'appelaient Clio La Cendrée, Anthony Chantilly et Anna Jackson. « Et vous venez faire ici l'école buissonnière, mesdames ?» demanda C, en les priant de s'asseoir. « Oh, nous allions souper seuls, parce que les gens de cette soirée, aussi horribles qu'ennuyeux, ont attristé notre imagination, » dit Clio La Cendrée. « Oui, nous allions nous en aller quand nous vous avons aperçus, » dit Anthony Chantilly. « Ainsi donc, venez avec nous, si vous n'avez rien de mieux à faire, » conclut Anna Jackson. « Joie et lumière, vivat !» répondit tranquillement C. « Élevez-vous une objection grave contre la maison dorée ?»« Bien loin cette pensée !» dit l'éblouissante Anna Jackson en dépliant son éventail. « Alors, mon cher, » continua C, en se tournant vers moi, « prends ton carnet, retiens le salon rouge et envoie porter le billet par le chasseur de Miss Jackson. C'est, je crois, la marche à suivre, à moins d'un parti pris chez toi. « Monsieur, » me dit Miss Jackson, « si vous vous sacrifiez jusqu'à bouger pour nous, vous trouverez ce personnage vêtu en oiseau phénix ou mouche, et se prélassant au foyer. Il répond au pseudonyme transparent de Baptiste ou de Lapierre. Ayez cette complaisance, et revenez bien vite nous aimer sans cesse. » Depuis un moment, je n'écoutais personne. Je regardais un étranger placé dans une loge en face de nous. Un homme de 35 ou 36 ans, d'une pâleur orientale. Il tenait une lorgnette et m'adressait un salut. « Hé, c'est mon inconnu de Wiesbaden !» me dis-je tout bas, après quelques recherches. Comme ce monsieur m'avait rendu, en Allemagne, un de ces services légers que l'usage permet d'échanger entre voyageurs, oh, tout bonnement à propos de cigares, je crois, dont il m'avait indiqué le mérite au salon de conversation, je lui rendis le salut. L'instant d'après, au foyer, comme je cherchais du regard le phénix en question, je vis venir l'étranger au-devant de moi. Son abord ayant été des plus aimables, il me parut de bonne courtoisie de lui proposer notre assistance s'il se trouvait trop seul en ce tumulte. « Et qui dois-je avoir l'honneur de présenter à notre gracieuse compagnie ?» lui demandai-je, souriant, lorsqu'il eut accepté. « Le baron von H. » me dit-il. Toutefois, vu les allures insoucieuses de ces dames, les difficultés de prononciation et ce beau soir de carnaval, laissez-moi prendre, pour une heure, un autre nom. Le premier venu, ajouta-t-il. Tenez, il se mit à rire. Le baron Saturne, si vous voulez. Cette bizarrerie me surprit un peu, mais comme il s'agissait d'une folie générale, je l'annonçai, froidement, à nos élégantes, selon la donnée mythologique à laquelle il acceptait de se réduire. Sa fantaisie prévint en sa faveur. On voulut bien croire à quelque roi des mille et une nuits, voyageant incognito. Clio la cendrée, joignant les mains, alla jusqu'à murmurer le nom d'un nommé Judd, alors célèbre, sorte de criminel encore introuvé et que différents meurtres avaient, paraît-il, illustré et enrichi exceptionnellement. Les compliments une fois échangés, « Si le baron nous faisait la faveur de souper avec nous, pour la symétrie désirable ?» demanda la toujours prévenante Anna Jackson, entre deux bâillements irrésistibles. Il voulut se défendre. « Susanna nous a dit cela comme don Juan à la statue de commandeur, » répliquai-je en plaisantant. « Ces Écossaises sont d'une solennité. » « Il fallait proposer à M. Saturne de venir tuer le temps avec nous, » dit C, qui, froid, voulait inviter d'une façon régulière. « Je regrette beaucoup de refuser, » répondit l'interlocuteur. « Plaignez-moi de ce qu'une circonstance d'un intérêt vraiment capital m'appelle, ce matin, d'assez bonne heure. » « Un duel pour rire? Une variété de vermouth ?» demanda Clio la cendrée, en faisant la moue. « Non, madame, une rencontre, puisque vous daignez me consulter à cet égard, » dit le baron. « Bon, quelques mots de corridor d'opéra, je parie, » s'écria la belle Anna Jackson. Votre tailleur, infatué d'un costume de chevaux légers, vous aura traité d'artiste ou de démagogue. Cher monsieur, ces remarques ne pèsent pas le moindre fleuret. Vous êtes étranger, cela se voit. Je le suis même un peu partout, madame, répondit en s'inclinant le baron Saturne. Allons, vous vous faites désirer ? Rarement, je vous assure, murmura, de son air à la fois le plus galant et le plus équivoque, le singulier personnage. Nous échangeâmes un regard, C et moi. Nous n'y étions plus. Que voulait dire ce monsieur? La distraction, toutefois, nous paraissait assez amusante. Mais, comme les enfants qui s'engouent de ce qu'on leur refuse, « Vous nous appartenez jusqu'à l'aurore et je prends votre bras !» s'écria Anthony. Il se rendit, nous quittâmes la salle. Il avait donc fallu cette fusée d'inconséquence pour entraîner ce bouquet final. Nous allions nous trouver dans une intimité assez relative avec un homme dont nous ne savions rien, sinon qu'il avait joué au casino de Wiesbaden et qu'il avait étudié les goûts divers des cigares de la Havane. Ah, qu'importait ! Le plus court aujourd'hui, n'est-ce pas de serrer la main de tout le monde ? Sur le boulevard, Clio la cendrée se renversa, rieuse, au fond de la calèche et, comme son tigre métis attendait en esclave, « À la maison dorée ! » dit-elle. Puis, se penchant vers moi, « Je ne connais pas votre ami. Quel homme est-ce ? Il m'intrigue infiniment. Il a un drôle de regard. »« Notre ami ? » répondis-je. « À peine l'ai-je vu deux fois, la saison dernière, en Allemagne. » Elle me considéra d'un air étonné. « Quoi donc ? » repris-je. « Il vient nous saluer dans notre loge et vous l'invitez à souper sur la foi d'une présentation de bal masqué ? En admettant que vous ayez commis une imprudence digne de mille morts, il est un peu tard pour vous alarmer touchant notre convive. Si les invités sont peu disposés demain à continuer connaissance, ils se salueront comme la veille, voilà tout. Un souper ne signifie rien. Rien n'est amusant comme de sembler comprendre certaines susceptibilités artificielles. Comment, vous ne savez pas mieux quels sont les gens? Et si c'était un... Ne vous ai-je pas décliné son nom? Le baron Saturne? Est-ce que vous craignez de le compromettre, mademoiselle? Ajoutai-je, d'un ton sévère. Vous êtes un monsieur intolérable, vous savez. Il n'a pas l'air d'un grec, donc notre aventure est toute simple. Un millionnaire amusant. N'est-ce pas l'idéal? Il me paraît assez bien, ce monsieur Saturne, dit C. Et, au moins en temps de carnaval, un homme très riche a toujours droit à l'estime, conclut, d'une voix calme, la belle Susanna. Les chevaux partirent. Le lourd carrosse de l'étranger nous suivit. Anthony Chantilly, plus connu sous le nom de Guerre, un peu mièvre, Diseux, y avait accepté sa mystérieuse compagnie. Une fois installés dans le salon rouge, nous enjoignîmes à Joseph de ne laisser pénétrer jusqu'à nous aucun être vivant, à l'exception des Ostende, de lui, Joseph, et de notre illustre ami le fantastique petit docteur Florian les Églisottes, si, d'aventure, il venait sucer sa proverbiale écrevisse. Une bûche ardente s'écrasait dans la cheminée. Autour de nous s'épandaient de fades senteurs d'étoffes, de fourrures quittées, de fleurs d'hiver. Les lueurs des candélabres étreignaient, sur une console, les seaux argentés où se gelait le triste vin d'ail. Les camélias, dont les touffes se gonflaient au bout de leurs tiges d'archal, débordaient les cristaux sur la table. Au dehors, il faisait une pluie, terne et fine, semée de neige. Une nuit glaciale. Des bruits de voitures, des cris de masques, la sortie de l'opéra. C'étaient les hallucinations de Gavarni, de Deveria, de Gustave Doré. Pour étouffer ces rumeurs, les rideaux étaient soigneusement drapés devant les fenêtres closes. Les convives étaient donc le baron Saxon von H, le Flave et Smintien C et moi, puis Anna Jackson, la Cendrée et Anthony. Pendant le souper, qui fut rehaussé de folies étincelantes, je me laissai, tout doucement, aller à mon innocente manie d'observation. Et, je dois le dire, je ne fus pas sans m'apercevoir bientôt que mon vis-à-vis méritait, en effet, quelque attention. Non, ce n'était pas un homme folâtre, ce convive de passage. Ses traits et son maintien ne manquaient point, sans doute, de cette distinction convenue qui fait tolérer les personnes. Son accent n'était point fastidieux comme celui de quelques étrangers. Seulement, en vérité, sa pâleur prenait, par intervalles, des tons singulièrement blêmes, et même blafards. Ses lèvres étaient plus étroites qu'un trait de pinceau. Les sourcils demeuraient toujours un peu froncés, même dans le sourire. Ayant remarqué ces points et quelques autres, avec cette inconsciente attention dont quelques écrivains sont bien obligés d'être doués, je regrettai de l'avoir introduit, tout à fait à la légère, en notre compagnie, et je me promis de l'effacer, à l'aurore, de notre liste d'habitués. Je parle ici de C et de moi, bien entendu, car le bon hasard qui nous avait octroyé, ce soir-là, nos hôtes féminins, devait les remporter, comme des visions, à la fin de la nuit. Et puis l'étranger ne tarda pas à captiver notre attention par une bizarrerie spéciale. Sa causerie, sans être hors ligne par la valeur intrinsèque des idées, tenait en éveil par le sous-entendu très vague que le son de sa voix semblait y glisser intentionnellement. Ce détail nous surprenait d'autant plus qu'il nous était impossible, en examinant ce qu'il disait, d'y découvrir un sens autre que celui d'une phrase mondaine. Et, deux ou trois fois, il nous fit tressaillir, C et moi, par la façon dont il soulignait ses paroles et par l'impression d'arrière-pensée, tout à fait imprécise, qu'elle nous laissait. Tout à coup, au beau milieu d'un accès de rire, dû à certaines facéties de Clio la Cendrée, et qui étaient vraiment des plus divertissantes, j'eus je ne sais quelle idée obscure d'avoir déjà vu ce gentilhomme dans une toute autre circonstance que celle de Wiesbaden. En effet, ce visage était d'une accentuation de traits inoubliable, et la lueur des yeux, au moment du clin des paupières, jetait sur ce teint comme l'idée d'une torche intérieure. Quelle était cette circonstance? Je m'efforçais en vain de la nettifier en mon esprit. céderais-je même à la tentation d'énoncer les confuses notions qu'elle éveillait en moi? C'était celle d'un événement pareil à ceux que l'on voit dans les songes. Où cela pouvait-il bien s'être passé? Comment accorder mes souvenirs habituels avec ces intenses idées lointaines de meurtre, de silence profond, de brume, de faces effarées, de flambeaux et de sang qui surgissaient dans ma conscience avec une sensation de positivisme insupportable à la vue de ce personnage? Ah ça, balbutiai-je très bas, est-ce que j'ai la berlue ce soir? Je bus un verre de champagne. Les ondes sonores du système nerveux ont de ces vibrations mystérieuses. Elles assourdissent, pour ainsi dire, par la diversité de leurs échos, l'analyse du coup initial qui les a produites. La mémoire distingue le milieu ambiant de la chose, et la chose elle-même se noie dans cette sensation générale jusqu'à demeurer opiniâtrement indiscernable. Il en est de cela comme de ces figures autrefois familières qui, revues à l'improviste, troublent, avec une évocation tumultueuse d'impressions encore ensommeillées, et qu'alors il est impossible de nommer. Mais les hautes manières, la réserve enjouée, la dignité bizarre de l'inconnu, sorte de voile tendu sur la réalité à coup sûr très sombre de sa nature, m'induisirent à traiter, pour l'instant du moins, ce rapprochement comme un fait imaginaire, comme une sorte de perversion visuelle, née de la fièvre et de la nuit. Je résolus donc de faire bon visage au festin, selon mon devoir et mon plaisir. On se levait de table par jeunesse, et les fusées des éclats de rire vinrent se mêler aux boutades harmonieuses frappées, au hasard, sur le piano, par des doigts légers. J'oubliai donc toute préoccupation. Ce furent, bientôt, des scintillements de concerti, des aveux légers, de ces baisers vagues, pareils au bruit de ces feuilles de fleurs que les belles distraites font claquer sur le dessus de leurs mains. Ce furent des feux de sourires et de diamants. La magie des profonds miroirs réfléchissait, silencieusement, à l'infini, en longues files bleuâtres, les lumières, les gestes. C et moi, nous nous abandonnâmes aux rêves à travers la conversation. Les objets se transfigurent selon le magnétisme des personnes qui les approchent, toutes choses n'ayant d'autre signification, pour chacun, que celle que chacun peut leur prêter. Ainsi, le moderne de ces dorures violentes, de ces meubles lourds et de ces cristaux unis, était racheté par les regards de mon camarade lyrique C et par les miens. Pour nous, ces candélabres étaient, nécessairement, d'un or vierge, et les ciselures en étaient, certes, signées par un 15-20 authentique, orfèvre de naissance. Positivement, ces meubles ne pouvaient émaner que d'un tapissier luthérien devenu fou, sous Louis XIII, par terreur religieuse. De qui ces cristaux devaient-ils provenir, sinon d'un verrier de Prague, dépravé par quelque amour penthésiléen? Ces draperies de Damas n'étaient autres, à coup sûr, que ces pourpres anciennes, enfin retrouvées à Herculanum, dans le coffre au Vélaria sacré, des temples d'Asclépios ou de Pallas. La crudité, vraiment singulière, du tissu s'expliquait, à la rigueur, par l'action corrosive de la terre et de la lave, et, imperfection précieuse, le rendait unique dans l'univers. Quant au linge, notre âme conservait un doute sur son origine. Il y avait lieu d'y saluer des échantillons de bure lacustre. Tout au moins, ne désespérions-nous pas de retrouver, dans les signes brodés sur la trame, les indices d'une provenance accade ou troglodyte. Peut-être étions-nous en présence des innombrables laits du suaire de Xisoutros, blanchis et débités, au détail, comme toile de table. Nous dûmes toutefois, après examen, nous contenter d'y soupçonner les inscriptions cunéiformes d'un menu rédigé simplement sous Nemrod. Nous jouissions déjà de la surprise et de la joie de M. Oppert lorsqu'il apprendrait cette découverte enfin récente. Puis, la nuit jetait ses ombres, ses effets étranges et ses demi-teintes sur les objets, renforçant la bonne volonté de nos convictions et de nos rêves. Le café fumait dans les tasses transparentes. C consumait doucereusement un havane et s'enveloppait de flocons de fumée blanche comme un demi-dieu dans un nuage. Le baron de H, les yeux demi fermés, étendu sur un sofa, l'air un peu banal, un verre de champagne dans sa main pâle qui pendait sur le tapis, paraissait écouter, avec attention, les prestigieuses mesures du duo nocturne, dans le Tristan et Ise de Wagner, que jouait Susanna en détaillant les modulations incestueuses avec beaucoup de sentiment. Anthony et Clio la Cendrée, enlacées et radieuses, se taisaient pendant les accords lentement résolus par cette bonne musicienne. Moi, charmé jusqu'à l'insomnie, je l'écoutais aussi, auprès du piano. Chacune de nos blanches inconstantes avait choisi le velours ce soir-là. La touchante Anthony, aux yeux de violette, était en noir, sans une dentelle. Mais la ligne de velours de sa robe n'étant pas ourlée, ses épaules et son col, en véritable carrare, tranchaient durement sur l'étoffe. Elle portait un mince anneau d'or à son petit doigt et trois bluets de saphir resplendissaient dans ses cheveux châtains, lesquels tombaient, fort au-dessous de sa taille, en deux nattes calamistrées. Au moral, un personnage auguste lui ayant demandé, un soir, si elle était « honnête ».« Oui, monseigneur », avait répondu Anthony. « Honnête », en France, n'étant plus que le synonyme de « poli ». Clio la Cendrée, une exquise blonde aux yeux noirs, la déesse de l'impertinence, une jeune désenchantée que le prince Solt avait baptisée, à la russe, en lui versant de la mousse de Roderer sur les cheveux, était en robe de velours vert, bien moulée, et une rivière de rubis lui couvrait la poitrine. On citait cette jeune créole de 20 ans comme le modèle de toutes les vertus répréhensibles. Elle eût enivré les plus austères philosophes de la Grèce et les plus profonds métaphysiciens de l'Allemagne. Des dandys sans nombre s'en étaient épris jusqu'au coup d'épée, jusqu'à la lettre de change, jusqu'au bouquet de violettes. Elle revenait de Bade, ayant laissé 4 ou 5 000 louis sur le tapis, en riant comme une enfant. Au moral, une vieille dame germaine et d'ailleurs squalide, pénétrée de ce spectacle, lui avait dit, au casino, « Mademoiselle, prenez garde, il faut manger un peu de pain quelquefois, et vous semblez l'oublier. »« Madame, avait répondu en rougissant la belle Clio, merci du conseil. En retour, apprenez de moi que, pour d'aucune, le pain ne fut jamais qu'un préjugé. » Anna, ou plutôt Susanna Jackson, la Circé écossaise, aux cheveux plus noirs que la nuit, au regard de Saris, aux petites phrases acidulées, étincelait indolemment dans le velours rouge. Celle-là, ne la rencontrez pas, jeune étranger. L'on vous assure qu'elle est pareille au sable mouvant. Elle enlise le système nerveux. Elle distille le désir. Une longue crise maladive, énervante et folle, serait votre partage. Elle compte des deuils divers dans ses souvenirs. Son genre de beauté, dont elle est sûre, enfiévre les simples mortels jusqu'à la frénésie. Son corps est comme un sombre lys, quand même virginal. Il justifie son nom, qui, en vieil hébreu, signifie, je crois, cette fleur. Quelque raffiné que vous vous supposiez être, dans un âge peut-être encore tendre, jeune étranger, si votre mauvaise étoile permet que vous vous trouviez sur le chemin de Susanna Jackson, nous n'aurons qu'à nous figurer un tout jeune homme s'étant exclusivement sustenté d'œufs et de lait pendant 20 ans consécutifs et soumis, tout à coup, sans vain préambule, à un régime exaspérant, continuel, d'épices extramordantes et de condiments dont la saveur ardente et fine lui convulse le goût, le brise et l'affole, pour avoir votre fidèle portrait pendant la quinzaine suivante. La savante charmeuse s'est amusée, parfois, à tirer des larmes de désespoir à de vieux lords blasés, car on ne la séduit que par le plaisir. Son projet, d'après quelques phrases, est d'aller s'ensevelir dans un cottage d'1 million sur les bords de la Clyde, avec un bel enfant qu'elle s'y distraira, languissamment, à tuer à son aise. Au moral, le sculpteur C.B. la raillait, un jour, sur le terrible petit signe noir qu'elle possède près de l'un des yeux. « L'artiste inconnu qui a taillé votre marbre, lui disait-il, a négligé cette petite pierre. » « Ne dites pas de mal de la petite pierre, répondit Susanna, c'est celle qui fait tomber. » C'était la correspondance d'une panthère. Chacune de ces femmes nocturnes avait à la ceinture un loup de velours, vert, rouge ou noir, aux doubles faveurs d'acier. Quant à moi, s'il est bien nécessaire de parler de ce convive, je portais aussi un masque, moins apparent, voilà tout. Comme au spectacle, en une stalle centrale, on assiste, pour ne pas déranger ses voisins, par courtoisie en un mot, à quelques drames écrits dans un style fatigant et dont le sujet vous déplaît. Ainsi je vivais, par politesse. Ce qui ne m'empêchait point d'arborer joyeusement une fleur à ma boutonnière, en vrai chevalier de l'ordre du printemps. Fin de la première partie du convive des dernières fêtes.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
Save big money on new windows now at Menards. Update your home with vinyl windows from Jeld-Wen. They're durable, energy efficient, and are low maintenance. Menards carries over 100 different size and style options in stock, ready to take home today. Save big on Jeld-Wen windows in store or view our weekly flyer on Menards.com for more window deals happening this week now at Menards.
Save big money at Menards.